Chapitre 42. Le vendredi 12 août 1960, le satellite de communication Echo fut lancé avec succès du Cap Canaveral. Dans l'après-midi, Dale, Lawrence, Kevin, Arlene et Mike allèrent à bicyclette chez Oncle Henry et Tante Lena. Puis ils marchèrent jusqu'au pâturage du fond et passèrent des heures à essayer de trouver la caverne des bootleggers. La chaleur était écrasante. Cordy Cook arriva peu avant le dîner et les regarda s'affairer. Sa famille avait réintégré son ancienne maison près de la décharge et les enfants du bourg avaient remarqué que ces derniers temps, la fillette fréquentait beaucoup Mike et sa bande et ils en faisaient des gorges chaudes. Les fouilles avançaient lentement. Il y avait 2 semaines qu'Arlène avait été déplâtrée et seulement 8 jours que le petit plâtre autour du poignet de Kevin avait été enlevé. Tous, sauf Arlène, avaient encore des croûtes sur les paumes et maniaient leurs outils avec précaution. Et puis, à l'heure du dîner, la voiture des Stewart venait de s'arrêter dans l'allée de la ferme et de klaxonner, Mike ouvrit avec sa bêche une brèche dans un trou sombre. Un air rance et froid sortit de la fente. Lawrence, toujours optimiste, avait apporté sa torche. Ils élargirent le trou et éclairèrent l'intérieur. C'était bien plus qu'un trou de taupe. Un boyau d'entrée jonché de bouteilles vides et de détritus divers débouchait sur un espace plus large dans lequel ils aperçurent du bois sombre, une caisse ou le comptoir d'un bar. Un objet courbe était de toute évidence un pneu, peut-être une des roues de la Ford A ensevelie ici, comme l'avait toujours assuré Oncle Henry. Les enfants se mirent aussitôt à déblayer, jetant pierres et mottes de terre vers le ruisseau. Soudain, ils se turent et s'arrêtèrent. Cordy, assise à l'ombre sur l'autre rive, leva les yeux. Son jean neuf, acheté chez Meyers, paraissait raide et luisant. « C'est bien vrai, » murmura Mike en enfonçant sa pelle dans le sol. « Mais rien ne presse, hein ?» Kevin s'appuya sur sa bêche et passa la main dans ses cheveux en brosse. La petite cicatrice de sa tempe était blanche, presque invisible. « Non, je ne vois pas pourquoi on se dépêcherait. C'est là depuis 30 ans. Ça peut bien attendre. » Dale renchérit. « Oncle Henry aimerait pas trop voir débarquer tous ces gens, ces journalistes, ces touristes. Pas pour le moment, tant que son dos n'est pas tout à fait guéri et tout ça. » Arlène se croisa les bras et déclara « Oh, il peut y en avoir pour de l'argent là-dedans. » Lawrence haussa les épaules et eut un sourire tordu. Lui, qui avait creusé avec acharnement pour élargir le tunnel, repoussait à présent la terre à l'intérieur. Il s'arrêta un instant pour donner son opinion. « Tu ne comprends pas, Jim? Ça sera toujours ici, ça va pas s'envoler, tu sais. Si ce qu'il y a là-dessous a de la valeur maintenant, pense à ce que ça vaudra quand on viendra le chercher dans 3 ou 4 ans. Ce sera notre secret, rien qu'à nous. » Ils rebouchèrent le tunnel avec autant d'énergie et d'enthousiasme qu'ils en avaient manifesté pour le chercher. Ils le remplirent de terre, le tassèrent, redescendirent au bord de la rivière prendre les lourdes pierres, les remontèrent pour les remettre en place, renforcèrent les mottes de gazon et traînèrent même à son emplacement originel une souche qu'ils avaient eu beaucoup de mal à déplacer. Puis ils reculèrent pour admirer le fruit de leurs efforts. Pour le moment, on voyait que la terre avait été creusée, mais d'ici une semaine ou deux, tout aurait repoussé, et à l'automne, il ne resterait aucune trace de leur fouille. Ensuite, ils prirent la direction de la ferme. Mike s'arrêta sur le sentier et regarda Cordy, toujours assise sur le talus opposé.
« Tu viens ?»«
Les gars, quand Dieu a manqué de pièces détachées pour vous faire intelligent, il vous a fait franchement débile !»
Dans l'ombre projetée par la colline, ils attendirent qu'elle traverse le ruisseau sur un tronc couché et les rattrape. L'enquête concernant les étranges événements de la semaine du 10 au 16 juillet avait été menée tambour battant pendant plusieurs semaines. À présent, elle poursuivait son cours, mais de façon plus discrète et avec un moins grand sentiment d'urgence. L'élément le plus important se trouva être l'inexplicable disparition de M. Ashley Montaigu. Quand, le soir de l'incendie, longtemps après minuit, on avait retrouvé la limousine abandonnée devant le square du kiosque à musique, le projecteur installé pour la séance gratuite éclairait toujours un rectangle blanc sur le mur du Parkside Café, les hommes du shérif et la police municipale d'Oak Hill organisèrent des recherches auxquelles se joignit bientôt le FBI. Pendant plusieurs semaines, on put voir dans les rues d'Elm Haven les agents de la police fédérale, en complet noir, cravate sombre et chaussures bien cirées, boire du Pepsi chez Carl ou à l'Arbre Noir en essayant de se fondre dans le décor. Mais il dressait l'oreille au moindre cancan du bourg. Et ce n'était pas ce qui manquait. Des milliers de théories fleurirent pour expliquer le vol du camion-citerne de Ken Grumbacher, Daly dont le responsable était presque certainement M. Roon, ancien directeur d'Old Central, l'incendie, l'enlèvement sacrilège de plusieurs cadavres dans l'entreprise de pompes funèbres Taylor et la disparition du richissime protecteur du bourg. Selon la rumeur, les os trouvés dans les ruines de l'école ne pouvaient pas être seulement ceux de Roon et des cadavres kidnappés. Il y en avait assez pour laisser supposer qu'on y faisait encore classe au moment de l'incendie. Quelques jours plus tard, le bruit courut chez le coiffeur et l'esthéticienne que l'expertise avait démontré l'extrême ancienneté de ces ossements, et d'autres théories virent le jour concernant l'étrange comportement de Carl Van Zyck, feu le gardien du cimetière et de l'école. Madame Whittaker, dont le cousin travaillait dans la police à Oak Hill, savait de sources sûres qu'on avait retrouvé la dent en or de Van Zyck dans un crâne calciné au milieu des ruines. 10 jours après l'incendie, alors que les engins des démolisseurs venaient d'arriver pour abattre les derniers pans de briques noircies et que les bulldozers commençaient à pousser les gravats dans le sous-sol étonnamment profond d'Old Central, la nouvelle circula au Parkside Café et sur toutes les lignes téléphoniques que l'enquête venait de progresser d'un grand pas. 4 jours, semblait-il, avant l'incendie du silo et 5 avant celui d'Old Central et la disparition de M. Ashley Montaigu, on avait aperçu dans Grandview Drive, à proximité de la demeure du millionnaire, la Chevrolet noire modèle 1957 du shérif Congdon. Un mandat de recherche avait été lancé contre M. Caspar Jonathan C.J. Congdon, à qui le FBI désirait poser quelques questions. Jim Harlan fut sans doute le dernier à avoir croisé CJ à Elmhaven. En effet, le jour où la rumeur se répandit qu'on recherchait l'adolescent pour l'interroger, il l'avait vu foncer comme un fou au volant de la Chevrolet vers 10h du matin. Personne ne le revit. Kevin raconta à la police, aux hommes du shérif, aux agents du FBI et à son père, que lui et Harlan, réveillés par le bruit du générateur, s'étaient précipités dehors juste à temps pour voir le camion-citerne démarrer. Ni l'un ni l'autre ne comprenaient pourquoi le chauffeur avait soudain bifurqué vers Old Central. Plusieurs jours après l'incendie, le shérif trouva dans l'épave du camion-citerne des balles de calibre 45. Kevin dut alors avouer qu'en voyant quelqu'un voler le camion, il était rentré dans la maison prendre le revolver de son père et qu'il avait tiré quelques coups. Il ne pensait pas que le conducteur ait pu perdre le contrôle de son véhicule pour cette raison, mais il ne pouvait l'assurer. Ken Grumbacher passa un savon à son fils, l'accusant de s'être conduit de façon irresponsable et il lui interdit de sortir pendant une semaine. Mais en parlant à ses collègues lors de la pause café ou du remplissage de sa nouvelle citerne, il semblait plutôt fier du comportement héroïque de son fiston. Le camion-citerne était convenablement assuré. Tous les autres enfants, sauf Cordy Cook, qui disparut complètement dans la nuit tandis que toute la ville admirait les efforts des pompiers et que personne ne revit pendant plus d'une semaine, furent interrogés par leur famille et par la police. Les parents de Mike et des petits Stewart furent horrifiés d'apprendre que leur rejeton s'était brûlé et égratigné en essayant d'ouvrir, avant qu'il n'explose, la portière coincée du camion-citerne. Tout cela pour tenter de sauver la vie d'un chauffeur dont on n'était même pas sûr de l'identité. Jim Harlan passa la nuit du samedi au dimanche chez Barney et quand le lendemain sa mère revint de Peoria, elle aussi se montra bouleversée et impressionnée par les exploits de son fils. La grand-mère de Mike ne mourut pas. Son état commença au contraire à s'améliorer et au milieu du mois d'août, elle pouvait murmurer quelques mots et remuer le bras droit. Monsieur et Madame O'Rourke demandèrent au docteur Staffney de les aider à trouver des spécialistes susceptibles de la mettre sur le chemin d'une complète guérison. La semaine qui suivit l'incendie, les garçons se remirent à jouer assidûment au baseball, parfois 10 à 12 heures d'affilée. Mike alla voir Donna Lou, s'excusa de l'incident du mois précédent et lui demanda de revenir dans leur équipe. Elle lui claqua la porte au nez. Mais son ami Sandy Whittaker vint jouer avec eux le lendemain et bientôt les plus sportives des filles du bourg se joignirent à elle. Michel Staffney se révéla un joueur de troisième base tout à fait honorable. Cordy Cook ne jouait pas au baseball. mais elle allait se promener avec les garçons ou leur tenait compagnie lors de leur partie de Monopoly les jours de pluie, ou bien lorsqu'ils trônaient dans le poulailler. Quant à son frère Toby, le bureau du shérif et les gendarmes mobiles le déclarèrent officiellement fugueur. Madame Grumbacher, une fois le fait établi que M. Cook était parti pour de bon, voulut aider la famille Cook, et plusieurs autres dames du comité de charité des églises luthériennes vinrent lui apporter de la nourriture et des vêtements. Le père Dinman ne venait dire la messe à Saint-Malachy que deux fois par semaine, le mercredi et le samedi. Mike continua à la servir, mais il envisageait d'abandonner à la rentrée. Les jours passèrent, le maïs continua à pousser, les enfants faisaient encore des cauchemars de temps à autre, mais ils étaient nettement moins horribles qu'auparavant. Chaque jour, les nuits devenaient un peu plus longues, mais elles semblaient bien plus courtes qu'avant l'incendie. Monsieur et Madame Stewart étaient venus manger des steaks chez Oncle Henry avec les O'Rourke et les Grumbacher. La mère d'Arlène arriva plus tard avec un dénommé Cooper qu'elle voyait régulièrement. Il était grand, parlait peu et ressemblait légèrement à l'acteur Gary Cooper, à part ses dents de devant un peu de travers. C'était peut-être la raison pour laquelle il souriait rarement. Lors de sa dernière visite, il avait offert à Arlène un gant de baseball et l'avait gratifié d'un timide sourire en lui serrant la main. Jim ne savait pas encore quoi en penser. Les enfants prirent leur repas sur le belvédère et arrosèrent leur steak de lait frais et de limonade. Après dîner, tandis que les grandes personnes bavardaient dans le patio, ils grimpèrent dans les hamacs et contemplèrent les étoiles. Puis Dale profita d'une pause dans leur discussion à propos de la vie sur les autres planètes, les enfants allaient-ils à l'école là-bas, pour annoncer « Je suis allé voir M. McBride hier ». Mike mit les mains derrière la tête et se balança si fort que son hamac vola au-dessus de la balustrade de la terrasse.
« Je croyais qu'il était parti à Chicago ou un truc comme ça. C'est exact. Il va aller s'installer chez sa sœur. Il est déjà parti en fait. Je l'ai vu juste avant son départ. La ferme est vide maintenant. »
Les cinq garçons et la fillette restèrent quelques instants silencieux. Près de l'horizon, une étoile filante zébra sans bruit le ciel.
« De quoi vous avez parlé ?»
demanda enfin Mike.
« De tout. »
Arlène, dans le hamac, renouait son lacet.
« Il t'a cru ?»«
Oui. Il m'a donné tous les carnets de Duane, même les vieux. Il a écrit plein de trucs. »
Il y eut un autre moment de silence. Les grandes personnes parlaient à mi-voix et leur conversation se fondait dans le chant des grillons et les coassements des grenouilles dans la mare.
« Il y a une chose dont je suis sûr, » dit Mike. « C'est que je ne serai pas fermier quand je serai grand. Trop dur. Travailler en plein air, ok. Sur un chantier, ça va. Mais pas fermier. »
« Moi non plus, » répondit Kevin en mâchonnant un radis.
« École d'ingénierie ? Dans le nucléaire ? Ou dans un sous-marin, peut-être ?»
Arlène passa une jambe par-dessus le hamac pour le balancer.
Moi, je veux un métier qui rapporte gros. Dans l'immobilier. Ou la banque. Bill est banquier.
Bill ?
Oui, Bill Cooper. Ou bien je serai bootlegger.
L'alcool n'est plus interdit, objecta Kevin.
Arlène eut un sourire tordu.
Ouais, mais il y a encore des tas de choses qui le sont. Les gens sont toujours prêts à payer des sommes astronomiques pour ce qui les démolit. Moi, « je serai joueur de baseball professionnel, » déclara Lorenz, assis sur la balustrade. « Comme Yogi Berra !»«
Ah ah, bien sûr !»
Cordy était aussi perché sur la balustrade, les yeux levés vers le ciel, mais elle regarda Dale.
« Qu'est-ce que tu seras, toi ?»«
Écrivain, »
murmura-t-il. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Il n'avait jamais évoqué cette possibilité. Gêné, il sortit de sa poche un des carnets de Duane.
Vous devriez lire ça. Vraiment. Duane a passé des heures, des années, à décrire les gens, comment ils marchent, à raconter ce qu'ils disent.
Il s'arrêta, se trouvant ridicule, puis décidant qu'il s'en moquait, il poursuivit.
C'est... On dirait qu'il a toujours su ce qu'il voulait être et combien de temps il lui faudrait pour se sentir prêt. Des années de travail et d'exercice avant de seulement essayer de se lancer dans une histoire. C'est tout là-dedans, dans tous ces carnets.
Arlène le regarda d'un air dubitatif.
« Et tu vas écrire les livres de Dwayne? Ceux qu'il aura écrits ?»«
Non, »
murmura Dale.
« J'écrirai mes propres histoires. Mais je n'oublierai pas Dwayne et j'essaierai de prendre exemple sur lui. Pour apprendre à écrire.
Tu vas vraiment écrire sur des vrais trucs? Sur ce qui est arrivé pour de bon ?» demanda Lawrence.
Dale, embarrassé, voulut clore le sujet.
« Si je le fais, compte sur moi pour décrire tes oreilles en feuilles de chou et ta petite cervelle de moineau. »«
Regardez !»
s'écria Cordy en montrant du doigt le ciel. Ils levèrent les yeux et contemplèrent en silence le satellite Echo traversant la nuit. Même les adultes se turent pour regarder la petite braise qui avançait au milieu des étoiles.
« Bon sang !» murmura Lawrence. « Il est drôlement haut, hein ?»
chuchota Cordy, dont le visage semblait soudain doux et heureux à la lueur des étoiles.
« Exactement à l'endroit et à la date où Dwayne nous avait dit qu'il serait, » remarqua Mike.
Dale reposa la tête dans le hamac. Il n'ignorait pas que le satellite, la caverne des bootleggers et bien d'autres choses seraient encore ici le lendemain et les jours suivants. Mais cet instant, avec ses copains autour de lui, la voix de ses parents et de leurs amis, par cette nuit tiède traversée des bruits de l'été et de brises parfumées, était unique, et son souvenir devait être préservé. Il regarda Mike, Lawrence, Arlen, Kevin et Cordy qui contemplaient le satellite, les yeux levés vers le splendide futur qui s'annonçait, pensa à Dwayne et essaya de les voir à travers les mots que celui-ci aurait choisis pour les décrire. Puis, sachant avec la sagesse instinctive de son âge que de tels instants doivent être appréciés, mais que trop d'insistance les viderait de leur sens, il regarda avec ses amis Echo monter au zénith, puis commencer à redescendre. Peu après, il parlait baseball, mais Dale écoutait d'une oreille distraite. Une chaude brise soufflait sur les immenses champs, agitant les plumets soyeux de millions d'épis de maïs et portant en elle la promesse d'autres semaines de vacances et d'une autre journée claire et chaude après le bref entracte de la nuit. Vous venez d'écouter « Nuit d'été » de Dan Simmons, traduit de l'anglais, États-Unis, par Evelyne Gauthier, lu par Mathieu Dahan, une production Audible Studio.